Oh, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia.
Imana yacu ni nziza.
Sa présence est là.
Ubwiza bwe buri hano.
Pour nous toucher, pour nous bénir.
Kugira ngo buduhezagire budukoreko.
C'est la conséquence de notre adoration et de notre cœur.
N'ingaruka yo guhimbaza kwacu n'imitima yacu.
Alléluia. Ce matin, on va parler d'un sentiment qui nous arrive à tous.
Kano gatondo turagomba kuvuga ku kintu kidushikira twese.
Et nous allons apprendre à le maîtriser.
Kandi tugiye kwiga kugifata mbere.
Quelque chose qui nous arrive à tous dans notre vie.
Ikintu kidushikira twese mu buzima bwacu.
Et quelque chose que nous devons apprendre à maîtriser.
Kandi ikintu duhamagarirwa kwiga gufata
mbere. Parce que si ça devient récurrent, c'est-à-dire que si ça se passe régulièrement dans nos vies.
Kuko iyo ari ikintu cyama kigaruka cyane mu buzima bwacu.
Cela va nous causer beaucoup de problèmes. Nous allons le voir d'ailleurs.
Usanga kituzanira ingorane nyinshi turaza no kukibona.
Nous allons apprendre à maîtriser la colère.
Tugiye kwiga gufata mpiri ishavu.
Nous allons découvrir ce qu'est la colère.
Tugiye kumenya icyo ari cyo ishavu.
Nous ferons plusieurs remarques à propos de la colère, ce que dit la Bible.
Hama turaza kuvuga byinshi kubijanye n'icyo bivuga kubijanye n'ishavu.
Nous verrons des générateurs de colère.
Turaza kubona ibintu bizana ishavu.
Nous verrons aussi quel péché nous pouvons commettre quand nous nous mettons en colère.
Turabe n'ibyaha dushobora gukora kubera ishavu.
Nous verrons les conséquences d'une colère récurrente, c'est-à-dire quand nous avons vraiment ce défaut dans notre caractère.
Turabe n'ingaruka z'ishavu ryamari garuka iyo dufite iyo ngorane.
Nous apprendrons à faire disparaître la colère.
Twige no kuzimanganya ishavu.
Nous apprendrons ce que c'est que la bonne colère, parce qu'il y a une bonne colère, une colère divine.
Turaza no kwiga tubone icyo ari cyo ishavu ryiza.
Et on verra contre quoi nous pouvons nous mettre en colère.
Hama turaza kuraba icyo dushobora gushavurira icyo.
Donc c'est tout un programme. Hier que quand j'ai médité sur cela.
Ni ibintu birebire nako ndabirimbura ko.
Alors d'abord on va regarder un texte qui que nous connaissons assez bien en général, c'est Éphésiens 4 verset 26.
Reka dusome Abanyefeso 4 umurongo wa 26.
Et on va voir ce que la Bible dit à propos de la colère.
Turabe ico bibiri tubwira kubijanye n'ishavu.
Et je vous dis, il y a beaucoup d'idées préconçues. Sur ce qu'est la colère.
Abantu bibaza bitari byo kubijanye n'ishavu.
Comment ça fonctionne?
Ningene usanga rikora.
Au verset 26 d'Éphésiens 4, il est dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, sur votre colère.
Ngo nimwaraka nimwashavura ntibibakoreshe icaha izuba ntirirenge mukiratse.
Le verset 27, il conclut: ne donnez pas accès au diable.
Mirongo ibirinzwe bacha babandanya ngo kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro.
Donc on va faire plusieurs remarques à propos de la colère.
Turaza kuvuga utuntu tutari duke kubijanye n'ishavu.
D'abord, la colère, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire: moi, je ne me suis jamais mis en colère de ma vie?
On
s'est tous mis un jour en colère. Et des fois, on a fait des dégâts. Et des fois, ça nous a surpris vraiment dans notre vie. On ne s'y attendait pas du tout. Et d'un seul coup, poum, on a explosé. Donc, de toute façon, Paul nous dit: si vous vous mettez en colère. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va obligatoirement nous arriver. Même le plus sanctifié des sanctifiés se mettra en colère. Ça arrive à tout le monde, on dit en français, de sortir de ses gonds comme une porte qui sort toute seule. Je
ne
sais pas comment vous dites en Kirundi, vous avez des expressions. Alors, la deuxième chose maintenant qu'il faut savoir sur la colère, c'est que la colère elle-même n'est pas un péché. Il faut comprendre que se mettre en colère n'est pas un péché. Parce que ça, c'est souvent une idée préconçue aussi. Seigneur, pardon pour le péché de colère. Non, il n'y a pas de péché de colère. C'est une fausse idée que beaucoup de chrétiens ont, même des prédicateurs prêchent comme cela en disant que si tu te mets en colère, tu as péché. Non, la Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
Hari abantu babyibaza ko n'abandi bakabyigisha ariko birivuga ngo niwaraka ntucumure.
Donc la colère va être un sentiment.
Urumva kuraka gushavura ni kigumba gumba.
Va être quelque chose en nous.
Ni kintu kiza muri wewe.
Qui sera créé, nous allons voir par différentes sources souvent.
Kizanwa n'ibintu bitandukanye turaza kubibona.
Et c'est un sentiment.
Kandi ni kigumba gumba.
Et rappelez-vous que vous avez été créé en trois dimensions: esprit, âme et corps.
Reka ndakwibutse ko waremwe mu ngingo zitatu uri impwemu ufise umusha kandi uba mu mubiri.
Votre esprit, c'est votre cœur, c'est là où Jésus habite.
Impwemu yawe niyo Yesu abamwe
mu mutima wawe.
Bice muri impwemu ni haba.
Votre âme,
umusha wawe,
c'est votre personnalité.
Ni bikuranga nk'umuntu.
Vos sentiments, vos raisonnements.
Ibigomba gumba ngene wiyumvira.
Votre volonté.
Ubugombe bwawe.
Et dans ces sentiments, il peut y avoir un sentiment de colère qui va naître.
Muri vya bigomba gumba rero hashobora kuzamo Mais
le sentiment de colère n'est pas un péché. Sinon, Paul aurait dit, si vous vous mettez en colère, vous avez péché.
Paul
dit, si vous vous mettez en colère, faites attention de ne pas
pécher. Troisième
chose,
la
colère n'est pas un mauvais esprit.
Ça
veut dire que tu ne peux pas être délivré de l'esprit mauvais de colère. Tu peux jeûner, tu peux chasser, rechasser, surchasser, ça ne marchera
pas. C'est
un sentiment de ta chair que tu vas devoir
contrôler.
On doit apprendre à se maîtriser dans ce domaine-là.
Et
on va voir comment le faire. Chercher pourquoi on peut se mettre en colère. Alors évidemment, si quelqu'un se met en colère régulièrement, ça peut être très mauvais. Regardons, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se met en colère.
Dans
les proverbes, il y a beaucoup de choses. Regardez Proverbe 30.
Proverbe
30, j'entends un grand silence là, je ne sais pas pourquoi vous êtes trop silencieux ce
matin. Je crois qu'ils ont assez dormi, ça va? Ça va, tout le
monde va bien? Ok, 30. Verset 33, c'est le dernier verset du Proverbe
30.
Vous savez, découvrir un problème, c'est pas une mauvaise chose. Le tout, c'est d'avoir une réponse divine par rapport aux différents problèmes auxquels nous avons à faire face. Dans la parole de Dieu, nous avons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelqu'un a appelé la parole de Dieu le livre du fabricant.
C'est
Dieu qui nous a créé, donc Dieu sait exactement comment on doit être réparé, comment on peut être changé par rapport à certains domaines.
Proverbe 30,
verset 33, il est dit: car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, la pression de la colère produit des querelles.
Kuko guterera mata kuresa amavuta no guhotora izuru kuzana amaraso niko kandi no kuvyura uburake kuzana imitongano.
Donc on sait que la colère, ça vient d'une pression intérieure.
Turazi yuko uburake ugushavura bizanwa no guhotora ikindi ndani
mu rwego. On a des expressions, par exemple exploser de colère.
Hari nk'imvugo bakunda ngo yaturikije arashavura.
La colère, c'est un peu quand il y a du gaz dans l'air. Vous savez, quand il y a une fuite de gaz avec une bouteille ou avec des gros trucs où il y a du gaz sous pression. D'un seul coup, il y a une fuite.
Et tu
es là.
Uburingaho,
tu allumes une allumette.
Uturiye nk'akantu
katurira. Je me souviens de ma maman il y a bien des années. On avait un four à gaz à la maison à l'époque en France. Et elle avait laissé le four allumé. Elle s'en était pas aperçue. Et puis elle a voulu allumer le four. Et nous on était à côté dans le salon. Et d'un seul coup on entend boum.
Mukanya gato twumva ikintu giturite.
On court affolé.
Tugenda twiruka.
Effectivement, ça avait explosé.
Urumva twaragize
ubwoba. Elle avait pas trop de dégâts corporels.
Nta bantu
bakomeretse. Quelques cheveux qui avaient été brûlés. Quelques cheveux qui avaient été brûlés.
Ari mishati mikenya yahiye.
Les habits un petit peu.
Ni mpuzu zirashaka gato.
Mais la colère, c'est comme ça.
Ni shavu na ko
najyo nuko. Apparemment.
Ubona umenga nta kintu.
Et d'un seul coup, boum, c'est l'explosion.
Mukanya gato bigaturika imbere yawe.
On dit en français que la moutarde nous monte au nez, ça veut dire qu'il y a une pression qui est là très forte.
Urumva rero ukumva ikirundi kiza ngo bisirane.
Et en fait, j'imagine que dans chaque langue nous avons des expressions à propos de la colère. Dans toutes les langues, il y a des expressions drôles. Parce que c'est quelque chose qui est humain, la colère. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui en fait arrive soudainement. Quelqu'un peut être comme cela, il y a le grand beau temps, c'est-à-dire très calme.
Et d'un seul
coup, boum, c'est la tempête, tout explose. Alors que ça arrive un certain nombre de fois, ça va. Par contre, si vous avez un problème récurrent, c'est-à-dire en général dans votre caractère, ces choses-là reviennent régulièrement, c'est très mauvais.
Il
y a une chose qu'il faut apprendre à faire dans la vie spirituelle que Jésus faisait toujours. Qui est une chose qui est très difficile à faire, mais quand on commence à la comprendre, ça nous aide beaucoup dans la vie. Et ça, vraiment, retenez cette leçon, ça va vous aider énormément. Apprenez à ne pas réagir aux situations. Mais essayez au maximum de répondre aux situations. Quelle est la différence entre réagir et répondre? Quand tu réagis, c'est que quelque chose te touche. Crée en toi des choses négatives et directement tu vas agir sur ça. Ça, c'est très mauvais. La plupart du temps, quand nous faisons ça dans notre vie, nous arrivons à des situations catastrophiques. Quand tu réponds à une solution, c'est que tu réponds au travers de la sagesse et de l'intelligence divine et tu apportes une solution à quelque chose qui peut-être t'a affecté ou t'a créé un gros problème. Donc c'est la grande différence et c'est pas facile ce que je vous dis ici, mais ça c'est un apprentissage, c'est une maturité à acquérir. Réagir est mauvais. Répondre est excellent. Et ça il faut vraiment qu'on apprenne. Ça fait partie de la maturité, de la maturité en Christ. Jésus ne réagissait jamais. Il répondait aux situations. Des fois, il y a des gens qui sont venus pour le tromper, pour le provoquer. Et il leur amenait une réponse. Il répondait à cette situation. Et bien des fois, ils se sont retrouvés confus. Les pharisiens se sont retrouvés confus. Et malheureusement, souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Nous voulons réagir. Quelque chose te pique. Tu prends ton épée et tu frappes. Plutôt que de réfléchir comment tu peux faire pour guérir de ce pic et d'apprendre à te protéger et de continuer ta marche. Alors, quelques générateurs de colère. Oh, il y a plein de générateurs de colère. J'en ai sélectionné que quelques-uns. Il y en a un, c'est la jalousie. Proverbe 6, verset 34. La jalousie est un générateur de colère. Et la jalousie, c'est toujours envier ce que les autres ont. Tu envies le fiancé. Tu vois, tu dis non, normalement c'est moi qui devrais être le fiancé ou la fiancée. Tu envies le job, le poste. Non, c'est pas lui qui aurait dû avoir ça, c'est moi. C'est moi qui devrais rouler dans telle voiture. C'est moi qui devrais avoir ceci ou cela. C'est moi qui devrais avoir la meilleure note. C'est moi qui. La jalousie. Et la Bible nous dit dans Proverbe 6, verset 34, « Car la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. » L'incompréhension. L'incompréhension aussi, ça peut te mettre en colère, surtout dans les choses spirituelles. Il y a l'histoire de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. On nous parlons des générateurs de colère. Et l'incompréhension, vous savez, des fois quand le monde spirituel bouge, il y a des gens qui se mettent dans une colère terrible. Des gens qui ne sont pas matures. Moi, je me souviens, au début de ma vie spirituelle, on a été amené par un couple au Seigneur.
C'était
des gens vraiment qui marchaient avec Dieu, qui étaient sensibles au monde spirituel. Et quand j'ai reçu le Seigneur, pendant plusieurs années, je ne comprenais rien, mais rien à la vie spirituelle.
Et
il y avait des choses qui me mettaient en colère, bêtement.
Et
surtout quand il y avait quelque chose qui bougeait spirituellement et qui venait par exemple de ces personnes-là, ils avaient prié pour des gens, il y avait eu des résultats et ça bougeait, je ne savais rien, mais d'un seul coup je me mettais dans des colères bizarres.
Mais
méfiez-vous si vous êtes comme ça. Si, quand le monde spirituel commence à bouger, quand Dieu commence à agir et que vous vous mettez en colère, faites attention à cela, parce que ça c'est une porte ouverte terrible. La colère vous empêchera d'être béni par Dieu. Naaman a failli passer par là.
Quand
vous connaissez tous cette histoire, on ne va pas revenir là-dessus.
Ce
général syrien qui était lépreux. Il y avait la petite servante israélite qui disait, mais si mon Seigneur allait voir le prophète en Israël, il serait
guéri.
Et cet homme y va. Et quand il y va, il s'attendait à certaines choses. Au verset 10 de 2 Rois 5, Élisée va envoyer un messager pour amener sa guérison. Pour lui dire comment il sera guéri. Et il est dit, Élisée, verset 10, envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné, il fut en colère et s'en alla disant, voici que je me disais, il sortira en parlant du prophète, vient vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il fera passer sa main sur l'endroit, certainement l'endroit malade, et débarrassera le lépreux de sa lèpre.
Ngo Elisa araheza tumako uti genda wiyuhagire muri Yorodani biheta ngabo ndwi umubiri uracusubira kuba uko wahora na uzobuhumanutse ariko Naamani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe azungagize ukuboko hejuru yaho ngwaye ankize imibembe.
Cet homme ne comprenait pas comment Dieu voulait agir.
Il n'avait
pas un cœur mauvais, mais il avait un sentiment qui a failli lui enlever sa bénédiction. Il était venu pour sa guérison. Le prophète envoie un messager. Mais ce monsieur dit, non, moi, je veux ceci, je veux cela. Je suis indigné de voir que le prophète envoie son messager qui ne vient pas me voir. Il s'est mis bêtement en colère.
Et
il était prêt à repartir alors que Dieu voulait agir, régler son problème.
Et
il y a beaucoup de gens comme ça qui passent à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils se mettent en colère pour des trucs complètement stupides. Parce qu'on verra que souvent quelqu'un qui se met en colère, quand il se regarde après coup, il se trouve ridicule. Et c'est normal, parce que quand on est en colère, on est méconnaissable. C'est la même histoire dans Luc chapitre 15. Vous vous rappelez du fils prodigue? Le fils prodigue, c'est celui qui va gaspiller les biens de l'héritage de son père. Il revient à la maison. Son père l'accepte comme son fils. Il est heureux, il fait la fête. Et l'aîné va réagir.
Vous voyez,
réagir. Rappelez-vous, réagir. Il va réagir. Et il réagit mal. Il entend de la musique, il entend que son père fait la fête, il demande à ses travailleurs, c'est quoi cette fête? C'est ton frère qui est revenu. Ton père a tué le veau gras, etc. La Bible nous dit au verset 28 de Luc 15, il se mit en colère, l'aîné, et ne voulut pas entrer. Il a réagi, il n'était pas content.
Et après,
il va dire à son serviteur et son père, tu t'imagines un peu? Moi, je suis là, je suis fidèle.
Je
n'ai jamais fait de gaffe.
Et
là, et toi, tu ne tues même pas le veau gras pour moi. Et là, ton fils qui a fait n'importe quoi avec tes biens. Il était en colère, il était frustré.
Et
à cause de sa colère, eh bien, il s'est privé de beaucoup de choses. Ensuite, la frustration. La frustration nous met souvent en colère. La frustration, ça arrive quand nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose des fois pour lequel nous prions, quelque chose que nous voulons réaliser dans la vie, et des fois ça nous énerve. Surtout quand on voit d'autres personnes avoir ce pourquoi on a travaillé dur, avoir, ces personnes-là ont des choses, sont bénies par Dieu d'une certaine façon, et là tu es frustré quelque part, tu es frustré et ça t'agace parce que ta situation ne change pas. Tu veux que ça change et c'est bien, mais ça ne change pas et là tu te mets en colère. Inquiété, un coléreux. C'était Jonas. Jonas était terrible. Dans son histoire, c'est terrible. Jonas avait des sérieux problèmes d'irritation. Et Jonas s'est retrouvé dans une situation terrible. Dieu l'envoie chez des ennemis d'Israël avec un message de repentance. Jonas n'obéit pas, il se retrouve dans le poisson, vous connaissez tous cette histoire. Mais ce qui va se passer après, c'est que Jonas va quand même obéir à Dieu. Il va annoncer à Ninive que s'ils ne se repentent pas, ils ont 40 jours pour se repentir, Dieu va détruire la ville. Et à sa grande surprise, toute la ville va se tourner vers le Seigneur. Toute la ville se tourne vers le Seigneur. Dieu enlève son jugement. Et la réaction de Jonas est la réaction la plus stupide. Au lieu de se réjouir, il va s'irriter. Et alors là, Dieu utilise un humour que parfois il utilise dans nos vies pour nous confondre avec la colère. Toute la ville se tourne vers le Seigneur. Au lieu de vraiment se réjouir en disant j'ai été le plus grand évangéliste de la terre et j'ai vu Dieu agir, j'aurai un grand témoignage à donner en Israël,
eh
bien il ne fait pas ça. La Bible nous dit, Jonas 4, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Et verset 2, il dit, ah, il prie à l'Éternel, il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant. Mais heureusement que Dieu ait fait grâce et est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, qui regrette le mal. Maintenant Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Mais c'était stupide ici. Jonas, je ne sais pas pourquoi il a pu prier des choses pareilles. Il se fâche en disant, je savais bien, si j'allais avec ton message, je savais bien que tu allais détourner ton jugement. Alors Dieu lui dit, verset 4, et l'Éternel répondit, est-ce que tu fais bien de te fâcher? Et alors Dieu va utiliser de l'humour. Vous savez, parfois, Dieu utilise de l'humour pour nous confondre. Des fois, on se retrouve dans des situations vraiment stupides dans lesquelles on s'est mis.
Et
vous savez, le Seigneur est un Dieu d'humour aussi. Là, il va vraiment utiliser de l'humour pour confondre Jonas, pour que vraiment Jonas change. On ne sait pas si Jonas a changé après, mais en tout cas, Dieu a utilisé de l'humour ici.
Il est dit ici,
donc Jonas sortit verset 5 de la ville, il s'assit à l'est de la ville, là il fit une hutte, s'assit dessous à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin, fit pousser un ricin, qu'il éleva au-dessus de Jonas. Donc un ricin, c'est un arbre, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Il était content de voir un petit arbre pousser au-dessus de sa tête. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir le vent d'est étouffant. Le soleil attaqua la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, ah là là, et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort ». Décidément, il aimait vraiment la colère, Jonas. Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » En fait, Jonas avait un problème chronique d'irritation. Et Dieu a vraiment utilisé de l'humour ici. Il fait pousser ce petit arbre et Jonas il est tout content. Et le petit arbre meurt et Jonas est fâché encore. Il y a des gens comme ça qui se fâchent pour rien et pour tout. Et Jonas en faisait partie. Jonas était un frustré. Pourtant, il était utilisé par Dieu. Imaginez-vous, il va chez des ennemis d'Israël et il y a 120 000 personnes qui se détournent de leur péché. Je connais plus d'un serviteur de Dieu qui aurait été tellement content qu'il en parlerait partout dans le monde. Et qui se réjouirait pour la gloire de Dieu. Mais là, Jonas, pas moyen. Il était émotif. Il vivait par ses émotions. Et ce n'est pas parce que vous êtes spirituel que forcément vous contrôlez vos émotions. Et nous allons voir que nos émotions peuvent parfois nous amener dans des choses terribles. Et c'est mon troisième point. Quel péché pouvons-nous commettre quand nous sommes en colère? Regardons un peu Proverbe 14, 17. Si vous voulez la sagesse et conduire votre vie correctement, il faut lire les proverbes. Ça nous aide à acquérir de la sagesse. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les proverbes. 14-17. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. Il fait des stupidités, des sottises. Des bêtises. Si tu te mets en colère régulièrement, tu vas faire des bêtises, c'est obligatoire. La parole de Dieu en parle et c'est vrai.
Proverbe 29,
verset
22.
29-22. Un homme coléreux excite des querelles et un homme furieux commet beaucoup de péchés. Quelle est la différence entre être coléreux et furieux? Quand on dit ici que quelqu'un est coléreux, ça veut dire qu'il se met souvent en colère. Quand quelqu'un est furieux, c'est quelqu'un qui va agir sur sa colère. C'est quelqu'un qui a chargé son fusil avec une balle et qui tire.
Voilà.
La balle, c'est le sentiment de colère. Vous savez, si vous tirez avec un fusil qui n'a pas de balle, eh ben, il ne se passera rien. Vous pouvez appuyer sur la gâchette, il ne se passera rien. Par contre, si dans un fusil, vous avez mis des balles,
eh
bien, si vous appuyez sur la gâchette, ça va partir. Et c'est exactement ce qui se passe quand on se met en colère et que notre colère devient de la fureur. C'est-à-dire que là, nous appuyons sur la gâchette. C'est là où nous mettons en action. Je vous rappelle que le péché est une action. Le péché n'est pas un sentiment. Le péché n'est pas une mauvaise pensée. Mais c'est l'action sur ces mauvaises pensées ou ces mauvais sentiments qui nous amènent au péché. Alors, quel type de péché on va commettre quand nous sommes furieux, nous nous mettons en colère, nous mettons en action notre colère? D'abord, nous allons dire souvent des paroles insensées. Il y a des mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Des calomnies. Des choses qui dépassent notre pensée. Des fois des insultes. Et puis des fois c'est des choses qu'on va regretter après. On va dire, ah, j'aurais pas dû dire ça, mais tu sais, j'étais en colère. Il
n'y
a personne à qui c'est arrivé ça? Ça nous est tous arrivé.
Tu
es là, tu as commencé à dire des choses que tu n'aurais jamais dû dire. Tu as dit des choses qui dépassaient très largement ta pensée.
En fait,
réellement ce que tu penses d'une personne ou deux personnes. Et tu as dit tellement de choses mauvaises que là tu as péché par ta bouche. Et le problème, c'est que si tu fais ça régulièrement, tu vas bousiller tes relations. Nous allons voir les fruits d'une colère récurrente. Parce qu'on peut dire des choses une fois en colère, mais si tu commences à constamment dire ces choses-là, il y a des personnes qui ne voudront plus être proches de toi et c'est normal. On va voir, la Bible nous prévient ça. Alors ensuite, on va faire des actions incontrôlées. La violence et la vengeance, c'est les deux V ici. La vengeance, la violence. Quelqu'un qui est en colère, et surtout ça c'est les hommes. Quand quelqu'un est en colère, qu'il est furieux, il peut se mettre à casser tout dans la maison. Par exemple, quelqu'un qui est sous l'art, il va revenir à la maison, il va être dans un état second. Il va s'énerver pour n'importe quoi. Et il va faire des actions incontrôlées. Des gens qui sont furieux, surtout les hommes mariés, font cela. La violence conjugale est due à la colère. Et c'est inacceptable. En tout cas, chez un chrétien, c'est inacceptable. Ensuite, la vengeance. Ça, ce sont des actions aussi incontrôlées. On dit en français que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire tu réfléchis, tu médites et après tu agis. Et ça, c'est quelque chose que tu fais quand tu es quelqu'un qui te met en colère régulièrement. Au bout d'un moment, tu vas vouloir te venger. Une situation qui s'est passée, que tu as entendu, d'un seul coup, paf, te fait exploser. Et regardez ce que Proverbe 19, verset 11 nous dit. Proverbe
19:11.
L'homme qui a de l'intelligence ou du discernement est lent à la colère. Il met son honneur à passer sur une offense. Nous avons bien des façons, je dirais des manières où nous pouvons être offensés dans notre vie. On attend certaines actions de quelqu'un qu'on ne voit pas, qui serait entre guillemets du normal. Ou quelqu'un devait faire quelque chose et il en a profité pour faire autre chose et ça nous offense. Et à l'intérieur de toi, tu es blessé quelque part. Ça, c'est inévitable dans la vie. Mais de toute façon, sache une chose, toi, tu es peut-être blessé par les autres, mais tu blesses aussi les autres. Et quelqu'un a dit un jour quelque chose qui est important, c'est que plus tu es blessé dans ta vie, plus tu vas blesser les autres.
Donc,
plus tu vas être offensé, plus tu vas offenser les autres.
Donc
il va falloir que tu fasses attention à cela dans ta vie. Donc Dieu nous dit que la sagesse, l'intelligence, c'est d'être lent à la colère. La Bible nous dira dans Romains 12-19, je vais juste le lire, Romains 12-19 nous dit « Ne vous vengez point, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et en fait, la Bible est claire, elle nous dit de laisser agir la colère. Ne cherche pas à te venger, mais sois plus intelligent. Quelqu'un t'a fait un sale coup, c'est pas grave. La première chose qu'il faut que tu dises, j'aurais mieux. Je me relèverai et j'irai beaucoup plus haut. Quant à ce genre de mentalité, pour glorifier ton Seigneur, Dieu va ouvrir des portes surnaturelles dans ta vie. Maintenant, quand tu vas utiliser ton énergie pour te concentrer, pour te venger, pour aller jusqu'au bout, bien là, tu vas être malheureux. Tu vas être très malheureux. Tu vas désobéir à la parole de Dieu et tu seras malheureux. Ensuite, la troisième chose, c'est de prendre des mesures disproportionnées. Donc, dire des paroles insensées, faire des actions incontrôlées. Et prendre des mesures disproportionnées. Surtout si tu es dans, par exemple, une position de leadership. Quand tu es dans une position de leadership, fais attention, si tu agis, tu prends des mesures sous le coup de la colère. Parce que des fois, tu peux être injuste. Tu peux virer quelqu'un parce que tu es en colère, parce qu'on a volé quelque chose. Et puis, quelques 6 mois ou 1 an, 2 ans plus tard, tu t'aperçois que la personne n'était pas coupable. Mais tu étais tellement en colère contre cette personne, contre la situation, excusez-moi, que celui que tu aimais peut-être un peu le moins dans tes employés, à payer pour tout le monde. Parce que tu as réagi. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Des fois, nos enfants nous énervent. Ça nous énerve. Et d'un seul coup, on va se mettre à les punir. Et quand on les a punis, on se sent mieux. Fais-le, c'est bien de punir un enfant. Mais pas sous le coup de la colère. Pas sous le coup de la colère. Donne une bonne réponse qui va bien, bien l'aider à se corriger. Parce que vous savez, parfois il y a des parents qui veulent mettre une gifle à leur enfant. Et dans le voyage de la main ouverte, la main se ferme. Et vous cassez une dent à votre enfant. Et vous vouliez lui donner une gifle, mais vous avez fermé le poing, fermé la main là, au moment du mouvement. Parce que vous étiez tellement en colère que vous ne maîtrisiez plus vos mouvements. Et puis après, tu promènes ton enfant et tu rencontres tes amis. Oh, qu'est-ce que tu as eu, mon petit? Tu as cassé une dent? C'est papa. Non, je suis tombé par terre. Et tu caches ton enfant parce que tu dis, si on découvre ça, ça va être mal pour moi. Et ça, c'était des mauvaises réactions. Tu as pris des mesures disproportionnées. Donc la colère peut vraiment nous amener dans des mesures disproportionnées. Alors, la colère récurrente maintenant. Numéro 4, on va voir les conséquences de la colère récurrente. C'est-à-dire quelqu'un qui régulièrement se met en colère. La Bible nous en parle dans Proverbes 19-19. Se mettre en colère, ça arrive à tout le monde. Aller trop loin et faire des actions incontrôlées, dire des mauvaises paroles, etc., ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont ce problème de caractère. Et la Bible nous en parle. Proverbe 19-19, on va lire dans une version, je vais vous lire dans une autre version. Celui que la colère emporte doit subir la peine. Si tu le libères, tu devras y revenir.
Ngo umuntu ni
Alors je ne sais pas si c'est traduit comme ça dans vos versions, mais dans l'hébreu, voilà ce que ça veut dire. Celui qui, que la colère emporte littéralement, c'est celui qui se met très en colère ou dont la colère est le lot, la portion, c'est-à-dire que, qui se met régulièrement en colère. Doit en subir la peine, c'est-à-dire les conséquences. Si tu le libères de sa colère, Tu vas devoir y revenir régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va recommencer. Donc quand il y a des choses qui sont récurrentes dans nos vies, c'est qu'on a un problème de caractère, qu'il faut vraiment, il faut que Dieu intervienne et nous guérisse dans ce
domaine-là.
Alors les gens qui ont des colères récurrentes comme ça, en fait, ont deux conséquences. D'abord, ce sont des gens qui se sentent mal. Parce qu'à tout moment, ils explosent. Il fait beau. Ils entendent une parole ou il y a un petit événement qui se passe et d'un seul coup, boum! Ils réagissent, comment on dit en anglais, overreact, c'est-à-dire qu'ils réagissent d'une façon disproportionnée. Et alors, ils sont là et les gens qui sont autour d'eux sont choqués quelque part. Parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous briserez vos relations. Vous pouvez avoir des gens qui sont autour de vous, qui vous aiment bien, mais si vous êtes tout le temps en colère ou trop souvent en colère, les gens vont commencer à être prudents avec vous. Vous allez perdre les bonnes personnes que Dieu met autour de vous. Les gens vous apprécieront de moins en moins. Parce que finalement, ils sont autour de vous et à chaque fois, ça explose. Dieu dit d'ailleurs qu'une des qualifications pour le ministère, c'est de ne pas être coléreux. Alors Dieu nous prévient, il va nous prévenir du côté des hommes et du côté des femmes, vous allez rigoler. Proverbe 22, versets 24 et 25. 22, 24 et 25. J'en ai parlé jeudi dans les enseignements sur la prospérité à propos du partenariat. Il est dit
versets 25
et 26, ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, proverbe 22, c'est-à-dire quelqu'un qui a une colère récurrente, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne trouves un piège pour ta propre vie. Donc ça nous parle des hommes. Un homme furieux. Ne te marie jamais avec un homme coléreux. Tu vas souffrir toutes les peines du monde à la maison. S'il est chrétien, il doit complètement, totalement guérir de cela parce que sinon tu auras des problèmes. Et parfois, certains d'entre nous, on s'est marié avec des gens comme ça. Et si tu te maries avec un homme qui est coléreux, tu vas avoir des histoires. Si tu le sais à l'avance, attends qu'il grandisse dans le Seigneur et que ce soit guéri. Ça
ne
veut pas forcément dire que c'est la mauvaise personne, mais attends à ce moment-là. Parce que s'il se met en colère tant que tu es fiancé, quand tu seras marié, crois-moi, il se mettra encore plus en colère. Il aura quelqu'un sur qui il pourra libérer sa colère. Jeune homme fainéant, jeune homme coléreux et jeune homme jaloux ne sont pas mariables. Soyez prudente, mademoiselle. Observez avant d'acheter. Je veux dire, non, c'est pas vous qui achetez, c'est lui qui achète normalement.
Okay.
Proverbe 21:19. Maintenant, ça parle de la femme querelleuse. Le Seigneur lui rendra s'il n'interprète pas comme je dis, s'il n'interprète pas ma pensée. 21:19. Là, ça nous prévient des femmes querelleuses. Mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable.
Ngo,
Donc vous voyez, les proverbes nous en donnent pour les messieurs et pour les dames. Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre dans la vie. Alors, vous allez briser donc vos relations. Ensuite, troisième chose qui va se passer, c'est que vous allez projeter une image négative autour de vous. Et c'est des gens qui auront du mal à s'engager avec vous. Et certaines personnes gâchent toute leur vie avec cette histoire-là. Vous savez, il y a plein de raisons pour lesquelles nous pouvons gâcher toute notre vie. Et ça en fait partie. Alors, ensuite, comment faire disparaître la colère? La Bible nous dit dans Éphésiens 4:31 qu'il faut faire disparaître la colère. Et ça, c'est important. Il y a des points sur lesquels nous devons faire extrêmement attention. Parce que la colère, on doit la faire disparaître de nos vies. Si ça se passe ponctuellement, ça arrive à tout le monde. Mais la Bible est claire là-dessus. Il y a plein de versets sur la colère. Éphésiens 4:31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Alors, la Bible nous dit aussi dans Proverbe 14:29. Des opportunités pour se mettre en colère, il y en aura toujours. Nous en rencontrerons toujours. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, il va falloir que tu fasses disparaître ça de ta vie de plus en plus. Que ça ait le moins d'impact possible. Parce que, rappelez-vous, quand nous avions lu Éphésiens, le premier verset d'Éphésiens que nous avons lu, la Bible nous dit clairement que si nous nous mettons en colère, que nous ne devons pas pécher, etc. Et au verset 30, il est dit d'Éphésiens 4 que ne donnez pas accès au diable. Donc Dieu nous prévient de fermer des portes et des fenêtres pour éviter justement ces accès à l'ennemi. Proverbe 14:29 nous dit la chose suivante. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Vous savez, Dieu nous appelle à vivre en paix, d'abord en paix avec nous-mêmes. Et en paix avec les autres. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix. Et la colère gâchera votre paix et surtout celle des autres. Donc si vous vous mettez en colère et que vous avez agi sur votre colère, bien sûr, une des choses c'est de se mettre devant le Seigneur. Mais pas seulement. Vous savez, quand on crée des dégâts, eh bien, il n'y a pas seulement le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est important. Mais quand tu as dit des mauvaises paroles à quelqu'un, ou que tu as cassé des choses, ou que tu as fait un certain nombre de dégâts, bien sûr, le Seigneur va te pardonner. Mais aussi, il va falloir que tu répares les conséquences relationnelles. Parce que Dieu ne peut pas nous aider dans des problèmes si on n'a pas une bonne attitude envers lui et envers notre prochain. Ça, c'est très clair. Tu peux avoir une relation avec Dieu, dire « Seigneur, je te demande pardon, Dieu pardonne. » Mais si tu as créé des dégâts sur la terre, il faut réparer les dégâts. Si tu ne le fais pas, tu vas laisser des traces chez les gens. Et au bout d'un moment, les gens vont être prudents. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et tu vas limiter tes relations. Ensuite, il faut apprendre à se maîtriser. Et se maîtriser, c'est quelque chose qui est important. Et la parole de Dieu nous en parle. Regardez le Proverbe 16, verset 32.
imigani 16 32.
On parle des héros de la foi, c'est bien.
Baratubwira kenshi ku bijanye n'abahize b'ukwizera.
Là vous allez voir ce que la Bible dit par rapport à ça.
Ariko reka turabe ico biri tubwira kuri ico
gihe. Il y a beaucoup beaucoup de versets qui concernent ce trait de caractère.
Hari rero ikintu aha baratwerekama imirongo myinshi ivuga kuri iyi nyifato y'ishavu.
Il est dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Verset 32.
Umurongo wa 32 ngo uteba kuraka aruta umunyenkomezi.
Verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui se domine, qui se contrôle lui-même, il vaut mieux que celui qui prend une ville. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La maîtrise de soi fait partie du fruit de notre esprit. Et il y a bon nombre de fois où nous avons des occasions d'être irrités, où nous pouvons nous mettre en colère très facilement, où nous devons apprendre la maîtrise de soi. Rappelez-vous la différence entre réagir à une situation et répondre à une situation. Celui qui n'est pas maître de lui-même va réagir à la situation. Donc il va passer de la colère à la fureur, c'est-à-dire qu'il va mettre en action ses sentiments de colère. Avec toutes les conséquences dont la Bible nous parle. Par contre, celui qui est maître de lui-même, il va encaisser, son sentiment de colère va monter, c'est normal, c'est humain. Mais il va devoir apprendre à le maîtriser. À éviter que ce sentiment de colère se transforme en mauvaises actions. Car la Bible nous parle dans Galates 5:22 de la maîtrise de soi. Galates 5:22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La maîtrise de soi. Ça veut dire que tu es capable, malgré tout ce qui peut se passer dans ta pensée, dans tes sentiments, toutes les attaques que tu peux avoir, tu vas te maîtriser. C'est-à-dire que tu ne vas pas réagir à la situation, mais tu vas apprendre à répondre à la situation. C'est ce qui va t'aider à faire disparaître la colère. C'est-à-dire que tu vas te laisser un temps d'analyse par rapport à la parole de Dieu. Et je vous rappelle qu'ici, il n'est pas parlé du fruit du Saint-Esprit, il est parlé du fruit de notre esprit ici. Parce que souvent, c'est confondu. On dit que c'est le fruit du Saint-Esprit. Non, c'est le fruit de notre esprit. C'est-à-dire que c'est notre nature spirituelle qui doit dominer davantage. C'est ce dont la Bible nous parle ici. Donc, c'est important de comprendre que la maîtrise de soi fait partie d'une des cures de la colère. C'est ce qui va guérir notre colère. La lenteur de la colère. Si tu arrives déjà à faire diminuer la façon dont tes sentiments de colère vont être en toi, ça va beaucoup t'aider de commencer à mieux te connaître pour avoir des réponses divines, pour éviter de faire certaines choses. Parce que vous savez, quand nous sommes tout le temps en colère, nous compromettons notre témoignage au travail. Parmi nos amis aussi. On va dire oui, c'est vrai, il témoigne de Jésus, que Jésus est puissant, mais il est tout le temps en train de se mettre en colère, il est tout le temps en train de faire n'importe quoi. Et ceci n'est pas du tout un bon témoignage. Donc nous allons nous en arrêter là pour la première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie sur la colère. Et je vous montrerai comment d'autres principes pour faire disparaître la colère dans vos vies. Et je vous montrerai aussi la bonne colère, la colère divine. Et comment aussi, vous, dans certains cas, vous allez vous mettre en colère contre certaines circonstances, contre le diable, contre des choses inacceptables dans vos vies.
gushavurira ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe byo Satani yazanye kugira ngo bihinduke.
Je voudrais compris que tout le monde puisse fermer ses yeux s'il vous plaît maintenant.
Reka ndabasabe twugara amaso yacu muri
kaba kanya. Prions ensemble.
Dusengere hamwe.
Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu veux nous apprendre à mieux nous connaître. Afin de changer certaines choses qui peuvent ne pas aller dans nos vies. Je prie, Père Céleste, pour que tu nous apprennes
à
ce qu'on se domine de plus en plus. Pour que nous puissions vraiment marcher dans tes voies. Apprendre à devenir de plus en plus comme Jésus, de répondre aux situations. De ne plus réagir aux situations. Père, nous voulons apprendre ces choses. Merci pour ta bonne parole qui nous enseigne. Merci parce que cette parole est puissante dans nos vies. Et nous voulons la connaître, nous voulons la pratiquer. Et Seigneur, je te remercie pour cela. Merci pour ce peuple. Tu nous donnes cette maîtrise, tu nous apprends cette maîtrise. Afin de ne pas être de mauvais témoignages autour de nous. De ne pas briser nos relations. De ne pas passer à côté de bénédictions que tu voudrais nous donner par incompréhension. Père, je te remercie pour cela. Alors que tout le monde a ses yeux fermés ici, y a-t-il des personnes ici? Vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous ne le connaissez pas personnellement. Vous n'êtes pas capable de témoigner d'une vie transformée par sa puissance. Vous n'êtes pas capable de témoigner du pardon de Dieu dans vos vies. Vous n'avez pas l'assurance de vos péchés pardonnés. Si vous mourrez maintenant, vous ne savez pas où vous allez. La Bible nous dit qu'il y a deux directions. Le corps de l'homme, quand il meurt biologiquement, reste ici. Son esprit et son âme partent. Et là, il y a les deux directions possibles. Le troisième ciel, là où Dieu habite, avec les rachetés du Dieu Tout-Puissant. Ou alors, l'enfer. Et là, il n'y a pas de possibilité de salut. C'est fini. Est-ce que toi qui es ici ce matin, tu peux témoigner qu'un jour dans ta vie, tu t'es vraiment mis devant Dieu et tu as dit, Seigneur, pardon pour mes péchés. Seigneur, je suis pécheur. Je mérite ton jugement, je mérite ta colère. Mais je crois que Jésus a versé son sang, qu'il est mort pour moi il y a 2000 ans à la croix, qu'il m'aime et qu'il veut me sauver. Et que tu lui as demandé pardon pour tes péchés. Tu lui as demandé d'habiter dans ton cœur. Et instantanément, je ne parle pas ici d'une église, je ne parle pas d'un baptême, je ne parle pas de lire sa Bible. Mais je parle instantanément, il y a un miracle qui s'est passé dans ton cœur. Si c'est toi, tu sais que tu vas au ciel, tu as cette conviction à l'intérieur. Mais peut-être que tu peux dire, moi je ne suis pas sauvé. Je ne savais pas que le salut commençait par un miracle. Si c'est toi ce matin, tu veux vraiment avoir le pardon de tes péchés et tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je te demande simplement de lever ta main. Que ce soit en bas, que ce soit au balcon, s'il y a des gens qui sont venus ici qui sont pécheurs et qui disent, moi je veux accepter Jésus ce matin, je veux qu'on prie pour moi. Et si c'est toi, je te demande de lever ta main simplement. Si tu n'as jamais fait cette expérience, si tu n'es pas né de nouveau et que tu veux accepter Christ comme ton sauveur personnel, si tu ne l'as jamais fait et que tu veux qu'on prie avec toi et que tu veux qu'on prie pour toi, je te demande simplement de lever ta main et tu dis, moi pasteur, je veux qu'on prie pour moi. Je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je ne suis pas sauvé, je le reconnais et je veux accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. Je veux être sauvé. Si c'est toi, simplement tu lèves ta main et je veux qu'on prie avec toi. A-t-il quelqu'un ici dans cette condition de pécheur? Ton cœur est lourd. Ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Mais tu veux accepter Jésus ce matin. Je demande une dernière fois, y a-t-il des pécheurs parmi nous qui veulent accepter Jésus? C'est toi, tu lèves ta main et on veut prier avec toi. Tout le monde est sauvé? Si tout le monde est sauvé, ce n'est pas un problème. Mais l'important, c'est que tu saches où tu vas. Parce que moi, ma responsabilité, c'est de t'annoncer l'évangile. Toi, ta responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec l'évangile. Donc, soit tu acceptes. Si tu as déjà accepté, tu n'as pas besoin de réaccepter. Ou soit tu pars en tant que pécheur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, une chose qui est sûre, c'est que vous devez récupérer vos enfants juste à la sortie, les classes sont juste à l'extérieur.